Bonsoir. D'habitude, il me faut à peu près une heure pour essayer de faire comprendre ce qu'est la réalité de la France-Afrique et son évolution dans le cadre de la mondialisation vers une sorte de mafia-Afrique. Et puis donner quand même quelques perspectives moins sombres à travers la conquête des biens publics à l'échelle mondiale. Et comme aujourd'hui, je vais rajouter une demi-heure pour vous expliquer les résultats de la commission d'enquête citoyenne sur la responsabilité de la France en 1994 pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Cela va être encore plus contracté que d'habitude, mais cet anniversaire est l'occasion d'évoquer des choses d'une extrême importance. D'abord parce qu'un génocide, ça concerne toute l'humanité, et parce que vous qui êtes étudiant en sciences politiques, vous découvrirez à travers ce qui est l'état actuel, non seulement de la complicité de la France, mais peut-être bien de sa coaction, des abîmes de dérives de responsabilité ou d'irresponsabilité politique. Donc, je vais commencer de manière très résumée et sommaire à vous expliquer ce que c'est que la France-Afrique, ce que c'est que son histoire, la criminalité sous-jacente, son actualité. Une ou deux précautions oratoires, ce sera très bref, donc forcément caricatural, peu nuancé, mais si vous voulez en savoir davantage, outre les questions dans le débat, il y a de nombreux ouvrages qui sont beaucoup plus détaillés, référencés, nuancés, etc. D'autre part, si un certain nombre de choses vous paraissent incroyables, il ne faut pas que ça vous étonne. Car nous-mêmes, dans l'association Survie, née à l'appel de 126 prix Nobel en 1981, nous avons milité une bonne dizaine d'années, selon cet appel, pour faire en sorte que les problèmes de la faim et de l'extrême misère dans le monde ne relèvent pas seulement de la charité, mais de décisions collectives, c'est-à-dire en fait de décisions politiques. Et nous avons convaincu un à un les parlementaires, 72% des députés de toute tendance, à signer un projet de loi commun, ce qui est sans précédent sous la Ve République, pour réformer en profondeur une partie de l'aide publique au développement. C'était une action assez consensuelle. Nous estimons aujourd'hui qu'il y a à peu près 2% de l'aide publique au développement, 40 milliards de francs à l'époque, aujourd'hui on se rapproche des 6 milliards d'euros, qui sert à lutter contre la pauvreté. Tout le reste sert, enfin une moitié est détournée, le reste sert des objectifs géopolitiques ou commerciaux. Et puis il y a la partie sur laquelle je reviendrai éventuellement de l'effacement d'une partie de la dette, cette dette qui au départ est le plus souvent une gigantesque escroquerie. Donc nous efforcions que non pas 2%, mais un septième de l'aide publique au développement parvienne véritablement à lutter contre la misère et la pauvreté. Et ce faisant, malgré le soutien de 72% des députés, nous avons buté contre un refus obstiné de l'exécutif d'inscrire cette proposition de loi à l'ordre du jour, et nous nous sommes rendus compte que la corruption n'était pas marginale, mais centrale. Puis, donc il y avait une criminalité politique incroyable dans les relations franco-africaines. Et quand est arrivé le soutien de la France à ceux qui commettaient le génocide au Rwanda, immédiatement suivi de la réhabilitation de Mobutu et du soutien français au nettoyage ethnique au Sud-Soudan, nous avons compris que ce n'était pas seulement une criminalité économique, mais une criminalité politique incroyable. Et donc, tout cela s'est passé en 1994. Il faut comprendre qu'il nous a fallu plus de 10 ans pour découvrir ce que je vous ai expliqué maintenant. Et pourtant, nous étions assez informés. Donc, ne vous étonnez pas si tout cela, surtout condensé, peut vous paraître incroyable. Comme on l'a rappelé, j'ai écrit à peu près 5000 pages pour en détailler les éléments. Donc, ce n'est pas tout à fait des propos en l'air. Noir silence, qui fait 600 pages à 1500 notes en référence. Et ce n'est pas pour m'en vanter, parce que c'est grâce aux nombreux témoins africains très impressionnants. Je suis le seul Français à avoir gagné un procès pour offense à chef d'État en 120 ans contre Omar Bongo, Idriss Déby et Denis Sassou Nguesso, le tribunal ayant conclu que, malgré le régime très sévère de l'offense à chef d'État, le travail qui avait été fait était tout à fait sérieux, et que par conséquent, on pouvait effectivement traiter Denis Sassou Nguesso, le grand ami de Jacques Chirac, de criminel contre l'humanité, et un autre ami de Jacques Chirac, Idriss Déby, le dictateur tchadien, d'assassin invétéré. Quant à Omar Bongo, il était parrain régional, ce qui était plus gentil. Bon. Donc, la France-Afrique, d'où ça vient? Tout ça a un départ assez simple. En 1960, de Gaulle est acculé à accorder l'indépendance aux pays d'Afrique au sud du Sahara. Et en même temps, il charge Jacques Foccart, son bras droit, son âme damnée. Il avait cette phrase, Foccart est très pratique, « Quand je pète, c'est lui qui pue ». Donc il charge Jacques Foccart de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire de maintenir ces pays dans la dépendance, dans leur état précédent, sous une forme nouvelle, pour 4 raisons. Le rang de la France à l'ONU, avec un cortège d'États clients, l'accès aux matières premières stratégiques, l'uranium, le pétrole, et aux matières premières juteuses comme le bois, le cacao, etc. Le financement parallèle des activités politiques du gaullisme, il n'y avait pas de financement officiel, avec des sommes très importantes. Ensuite, ce sera l'ensemble des partis de gouvernement qui en bénéficiera. Et puis, une 4e raison que j'ai découvert plus tard, qui est la sous-traitance par la France de la guerre froide dans une partie du continent africain qu'il fallait faire échapper aux ambitions soviétiques. Et donc, pour ces 4 raisons, de Gaulle, d'un côté, décrète une nouvelle légalité internationale, et de l'autre, charge Foccart de faire exactement l'inverse. Et c'est ça qui est le point de départ de ce côté caché de la France-Afrique. Car si vous décrétez une légalité internationale et que vous faites exactement l'inverse, l'inverse est illégal et donc vous ne pouvez le gérer que de manière cachée, occulte, embrouillée, désinformée. Voilà pourquoi on met tant de temps à comprendre ce que c'est que la France-Afrique. Donc la France-Afrique, si vous voulez, c'est comme la face immergée d'un iceberg. Vous avez la face émergée qui est immaculée, la France patrie des droits de l'homme, meilleur ami de l'Afrique, avocate, etc. Chirac joue ce rôle-là très bien. Et puis, vous avez les 90% immergés qui sont la réalité néocoloniale, et j'emploie ce terme, j'ai longtemps hésité à l'employer, mais aujourd'hui, le néocolonialisme français rejoint sa propre caricature. Vous avez un système proprement néocolonial qui est maintenu. Comment a-t-on fait? Tout simplement en commençant par sélectionner un certain nombre de chefs d'État « amis de la France », entre guillemets. Ces chefs d'État sont, je dirais, des gouverneurs à la peau noire, ce qui est bien pratique, puisqu'on ne voit plus que ce sont des Blancs qui commandent. Et je n'exagère pas, puisque Certains admettent qu'ils font partie des services secrets français, comme Omar Bongo. D'autres sont des militaires qui ont fait les guerres coloniales, comme Elia Dema. D'autres sont des gens qui prospéraient dans le giron de Focard depuis plusieurs années. Oufouette Boigny, qui avait été un leader progressiste et indépendantiste en 1945, avait été retourné par le chantage au début des années 50, etc. Donc, on choisit des gens qui nous plaisent et on élimine, par une violence parfois extrême, tous ceux qui ont une quelconque légitimité. À commencer par le plus important des leaders indépendantistes, le Camerounais Ruben Niobe, qui roulait dans la farine par rapport aux négociations sur une sortie de ce protectorat de l'ONU, qui était le Cameroun, vers l'indépendance. Ruben Niobe avait commencé à lutter pour l'indépendance et cela, il a été assassiné et son parti, l'UPC, a subi une guerre de plus de 13 ans, une véritable guerre du Vietnam avec un nombre de victimes entre 100 000 et 400 000 morts, des dizaines d'oradours sur glane, et tout cela ne figurant dans aucun manuel d'histoire français. Ensuite, il y a eu l'assassinat de Sylvanus Olympio, président élu, leader indépendantiste du Togo, par quatre sergents franco-togolais fraîchement revenus des guerres d'Indochine et d'Algérie. L'assassin Gnassingbé Eyadema est toujours au pouvoir 40 ans plus tard, 41 ans maintenant. Vous avez également la disparition plus que suspecte de Barthélemy Boganda, le leader centrafricain. Ailleurs, on a procédé à la fraude électorale. Il n'y en a qu'un seul qui a résisté, c'est Sékou Touré en Guinée, mais il a subi en 2 ou 3 ans tellement de vrais complots qu'il a fini par devenir paranoïaque et en voir des faux, ce qui n'a pas été du bénéfice pour le peuple guinéen. Finalement, d'ailleurs, 15 ou 20 ans plus tard, il s'est rallié à Focard. Donc, on a mis en place ces chefs d'État amis en leur disant « servez-vous, enrichissez-vous, confondez l'argent public et l'argent privé », ce qui était le point de départ d'une corruption de plus en plus généralisée. Et d'autre part, on a mis en place toutes sortes d'autres mécanismes dans cette partie immergée de l'iceberg. On a, d'un point de vue militaire, on a doublé la présence militaire par des ingérences et des invasions barbouzardes. Le fameux Bob Denard qu'on présentait dans cette partie immergée comme un électron libre qui a, par exemple, assassiné le président des Comores, est intervenu dans beaucoup de pays. Chaque fois qu'il avait un procès, il en a eu plusieurs, les hauts gradés des services français, les hauts Sarès, les Janou Lacaze, etc., venaient dire « Mais Bob Denard n'est pas un mercenaire, c'est un corsaire de la République, il a toujours servi le drapeau français. » Et donc, ces mécanismes servent, si je puis dire, à tromper l'opinion publique. Ils sont très fréquents, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on a affaire à quelque chose d'incontrôlé, alors qu'en fait, c'est parfaitement tenu en laisse. Je pourrais parler aussi très longtemps des trafics d'armes. Les trafiquants d'armes sont tous sauf des électrons libres. On ne fait pas partir des livraisons d'armes depuis les principaux aéroports européens sans avoir une sorte de licence. Bon, on pourrait développer ça longuement. Alors, il y a aussi, d'un point de vue économique, le fait qu'un certain nombre d'entreprises, petites et grandes, sont les faunées des services secrets français. Le plus célèbre de l'aveu même de son PDG, Loïc Le Floch, c'est ELF. ELF a été créé en 67 pour être un bras financier des services secrets français. Vous savez que peu de temps après, ELF a financé la guerre d'agression de la France-Afrique contre le Nigeria, la guerre dite du Biafra, qui était destinée à agréger à la France-Afrique les richesses pétrolières du sud-est du Nigeria, mais Elf a participé aussi à de très nombreux complots. On en a même trouvé trace dans ses coffres-forts à propos du Congo-Brazzaville. Il y a aussi des entreprises moins importantes qui font partie de ce système. Je n'ai pas parlé de Bouygues, bien connu pour sa propension à la corruption et à la surfacturation, ce qui laissait des marges très appréciables. Mais il y a aussi un certain nombre de petites entreprises de sécurité ou de fourniture aux missions de coopération, facturant 2, 3 ou 4 fois le prix, et la différence allant, par exemple, aux bonnes œuvres de Bob Denard, qui était détenteur comme ça d'une série de SARL au Gabon ou ailleurs. Donc tout un mécanisme de pompe à fric. Je ne parle pas, je pourrais parler aussi longuement de la rente de l'exploitation du bois, une rente en grande partie faite d'argent sale. On pourrait parler de l'exploitation d'un uranium qui souvent n'a pas été payé. Je passe. Donc tout cela développe des rentes très importantes auxquelles on pourrait ajouter la moitié détournée sur l'aide publique au développement et ensuite les sommes considérables détournées sur les prêts qui deviendront la dette. Donc, un aspect financier doublé d'un aspect monétaire. On dit que le CFA est un cadeau à l'Afrique, mais en fait, le CFA, ça veut dire Colonie française d'Afrique, et ce franc CFA, grâce à sa convertibilité, a permis d'exfiltrer vers la Suisse et les paradis fiscaux une bonne partie des richesses africaines. Un certain nombre de ce qu'on appelait les aides hors projet, le bouclage des fins de mois, qu'il s'agisse de payer les déficiences budgétaires du Cameroun, qui par ailleurs n'inscrivait aucune recette pétrolière dans son budget, ou qu'il s'agisse de payer une échéance de la Banque mondiale, bien, quand il s'agissait de combler le budget d'un pays, assez souvent l'argent repartait directement vers un paradis fiscal où il était partagé entre le décideur français et le destinataire africain. Une étude a d'ailleurs montré qu'il y avait un pic important des aides hors projet avant chaque grande campagne électorale en France. Donc, c'était une pratique habituelle. Je pourrais développer cela longuement, donc tous les aspects parallèles. J'ai parlé des mercenaires, j'ai parlé des aspects financiers, des détournements. Je reviendrai tout à l'heure sur les aspects politiques. Donc, on a mis en place un système, et les Anglais n'ont pas fait du tout pareil, malgré tous leurs défauts. On a mis en place un système où la France-Afrique, ces réseaux focards qui ensuite sont devenus multiples, tenaient tous les leviers. Ça s'est un peu démultiplié parce que il y a eu au début 70 une dispute entre les gaullistes et les néo-gaullistes et qui s'est traduit en fait par une scission entre Focard et Pasqua devenant le financier de l'essor de la Chiracie, et donc le tandem Pasqua-Chirac a pris les rênes de la France-Afrique à partir de 1974. Chirac en est le pivot depuis 30 ans. Les petites affaires, relativement petites affaires, des autres présidents, en particulier Mitterrand, ne sont maintenant, de mon point de vue, que des sortes d'excroissance ou de greffons sur le tronc principal qu'est la France-Afrique chiracienne, qui tenait notamment le bastion le plus important, Elf. Donc on a quelque chose qui est au cœur de l'État Et je rappelle que France-Afrique, ça a plusieurs sens. C'est ces relations parallèles de la France et de l'Afrique. C'est la France-Afrique, parce que l'argent est quelque chose de déterminant et de l'argent sale. Et c'est des Français et des Africains. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de la France, mais il y a un certain nombre d'Africains qui se sont prêtés au jeu, qui ont accepté de rentrer dans ce mécanisme, qui sont devenus très riches et qui, parfois, inversent la relation de domination. C'est-à-dire, comme ils durent plus longtemps que les présidents français, ils accumulent des matériaux de chantage tout à fait considérables dans tous les domaines et, de temps en temps, ils font chanter les présidents français. Encore récemment, lors de ce scandale qu'a consisté la libération à 3h du matin d'un directeur de la police congolaise criminelle contre l'humanité par une haute magistrate réveillée en pleine nuit qui a accepté cette forfaiture, tout cela avait été précédé, semble-t-il, par des coups de téléphone de la part de M. Sassou Nguesso à M. Chirac qui relevaient du chantage. La France-Afrique, ce sont des Français et des Africains. C'est un club qui, d'ailleurs, au fil des années, a pris la forme d'un club d'initiés, au sens littéral, puisque peu à peu, et notamment dans les années 80 et 90, la quasi-totalité des grands décideurs de la France-Afrique appartiennent à la Grande Loge nationale française, qui est une obédience très à droite, très liée aux États-Unis, contrairement au discours anti-américain que tiennent certains de ses membres, mais ça, c'est pour tromper l'ennemi. Ce n'est pas... Maintenant, c'est devenu une quasi-obligation. Quand le général Bozizé... aidé d'ailleurs par des morceaux de la France-Afrique, a conquis le Centrafrique il y a quelque temps. Un avion spécial a été dépêché du Congo-Brazzaville avec le grand maître Denis Sassou Nguesso pour aller initier, presque séance tenante, M. Bozizé. Et il y a des pressions très fortes pour ceux qui résistent encore à faire partie de ce club qui tient les gens par une solidarité philosophique, entre autres. Bon. Donc, vous avez cet élément qu'il faut prendre en compte. Je précise que j'en ai parlé plusieurs fois dans des tenues blanches à un certain nombre de francs-maçons qui ignorent évidemment tout cela et qui sont assez scandalisés parce que la franc-maçonnerie a joué un rôle important dans la constitution de la République, de la démocratie et des biens publics en France. Et c'est vrai que là, on assiste à un dévoiement qui est assez stupéfiant. La France-Afrique, c'est cette histoire qui s'accompagne d'une criminalité économique énorme. J'ai évoqué les détournements massifs de l'aide publique au développement. On pourrait signaler la part très faible du pétrole qui revient à ces pays. Par exemple, M. Sassou Nguesso, toujours lui, ne demandait que 17% de l'argent du pétrole, et encore du pétrole déclaré, puisque une partie du pétrole au large n'est pas comptabilisée, et j'ai eu des témoignages directs à ce sujet. Le FLOC, d'ailleurs, n'en fait pas mystère. Donc, des détournements économiques massifs, et puis une criminalité politique sur laquelle je reviendrai avec de nombreux coups d'État. Chaque chef d'État de la France-Afrique était surveillé par un colonel de la DGSE qui assurait sa protection, mais qui parfois l'écartait lorsqu'il devenait indocile. Le jour où Amani Diori, le président du Niger, a voulu vendre une partie de son uranium aux Américains, il a été débarqué ce jour même. Donc, on tient ces gens en main, et puis quand il y en a un qui plaît plus, comme Hissène Habré, eh bien, il est remplacé par un autre, Idriss Déby, mais on a toujours affaire au même type de dictature et de criminalité économique. Alors, je vais très vite, je vais encore citer deux ou trois exemples importants pour vous montrer la nature de ces fonctionnements, pour achever de vous édifier, avant de passer au Rwanda. Tout d'abord, il y a eu la dette, une nouvelle forme d'aide, a-t-on dit. Tous les détournements ne suffisant plus, à la fin des années 70, on a dit, mais on va trouver une nouvelle forme d'aide formidable, on va vous prêter à des taux très faibles. Les taux du marché sont de 15%, mettons. On vous prête à 0 ou 5%. Et la différence est comptée en aide publique au développement. Donc vous avez 10% de diminution des intérêts, et avec 10% de ces diminutions des intérêts qu'on appelle de l'aide, eh ben, on multiplie ça par 10 et on a 10 fois plus d'argent frais. Donc c'est une forme d'aide formidable parce qu'on a un levier de 1 à 10 et puis c'est pas douloureux tout de suite. Sauf que dans la mesure où tout cet argent, ou presque rien de cet argent n'allait à un développement productif, mais que une partie, au moins la moitié, allait directement dans les paradis fiscaux. C'est pas vrai seulement en Afrique, c'est aussi la même chose en Amérique latine, aux Philippines ou ailleurs. Et que, d'autre part, le reste servait soit à des projets fastueux, des projets surfacturés, ou des projets inadaptés, comme un hôpital dont le coût de fonctionnement est supérieur au budget de la santé, donc il ne fonctionne pas, etc., etc. C'est-à-dire un certain nombre d'éléphants blancs inadaptés à la réalité du pays. Eh bien, quand vous devez vous mettre à rembourser même des prêts à taux faibles et que rien n'est sorti de tout cela, que la population n'en a pas vu la couleur, vous êtes en réalité étranglé. Alors, pour donner un exemple encore un peu plus croustillant, si je peux dire, vous avez le cas du Congo-Brazzaville, où le dictateur Sassou Nguesso, chéri de la France-Afrique, de l'extrême droite à l'extrême gauche d'ailleurs, renversé par la poussée démocratique au début des années 90, rétabli grâce aux mercenaires français, à la garde présidentielle de Mobutu, à des gens qui avaient commis le génocide au Rwanda, à l'armée angolaise, etc. Enfin, un patchwork assez remarquable en 1997. Tout cela a enchaîné une guerre civile, deux ou trois guerres civiles même, avec une série de crimes contre l'humanité. J'ai démontré dans un livre qui s'appelle « L'envers de la dette » que ce pays avait subi trois phénomènes presque simultanés. Vous avez d'un côté la ponction de son pétrole. Et je vous ai raconté tout à l'heure comment ce pétrole, il n'y en avait qu'une toute petite somme qui arrivait dans les caisses de l'État et surtout pour financer les actions publiques. Ensuite, un certain nombre d'intermédiaires, de grandes banques, les plus grandes banques françaises, d'ailleurs elles y sont presque toutes, favorisent une augmentation des disponibilités pour cette dictature, ces dictatures, à travers le mécanisme de ce qu'on appelle les prêts gagés. C'est-à-dire qu'on vous prête sur ce qui va être produit dans les prix de pétrole dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans. On vend à l'avance toute la production, ce qui évidemment va pomper les recettes fiscales futures, mais peu importe. Et donc, avec ces mécanismes, chacun de ces prêts passant par une dizaine de paradis fiscaux et avec chaque fois des prélèvements de commissions, vous avez une dette qui mousse comme eux en neige. On prête 10, mais à la fin, ça coûte 20, 25, parce que tout le monde s'est servi au passage, donc ça mousse. Et puis, vous vous retrouvez avec une dette qui est égale à trois fois le produit intérieur brut, la production nationale annuelle du Congo, ce qui est un record mondial, pratiquement. Donc vous avez déjà un premier effet de prestidigitation assez extraordinaire. Vous avez un plus, qui est le pétrole, qui est en train de disparaître, qui se transforme en trois moins, la dette. C'est formidable. Pétrole disparaît, la dette augmente. Il devient une sorte de record mondial. Et ensuite, j'ai pu montrer qu'une partie de l'argent de cette dette avait servi à acheter des armes pour les deux côtés d'une terrible guerre civile qui a détruit une partie du pays. Alors vous allez me dire, tout ça est une série de fâcheuses coïncidences. Sauf que j'ai encore pu montrer que c'était le même homme, Jacques Sigolet, bras droit d'André Tarallo, le monsieur Afrique Delphes, qui, depuis Genève, à la fois vendait le pétrole, gérait en direct la dette du Congo-Brazzaville et achetait les armes. Donc on ne peut pas dire que tous ces phénomènes sont indépendants. Autre manifestation de la France-Afrique, donc nous avons au début des années 90 une très grande poussée démocratique. Et à ce moment-là, un peu partout fleurissent des mouvements de contestation, l'envie d'en finir avec la dictature, des conférences nationales souveraines, etc. La France-Afrique est prise au dépourvu au Bénin, où effectivement le dictateur est renversé. Il y a le discours de la Baule, où Mitterrand dit « mais nous allons maintenant aider ces pays à accéder à la démocratie ». On institue un bureau de l'état de droit à la coopération. Donc, avec notre argent, celui des contribuables, on va financer des urnes, même peut-être transparentes, des bulletins, des enveloppes, etc., tout l'arsenal du vote. Les gens se mobilisent jour et nuit auprès des bureaux et des urnes pour essayer d'éviter la fraude. Et en même temps, on envoie nos meilleurs spécialistes dans la capitale, que ce soit les gens des réseaux Pasqua ou les gens de la mairie de Paris qui sont de vrais spécialistes, pour faire en sorte que là où les gens votent à 80% pour chasser le dictateur, grâce à la centralisation frauduleuse des résultats, le dictateur se retrouve avec 80% des voix en sa faveur ou 52% s'il est modeste. Je ne plaisante pas, nous avons démontré cela en long et en large s'agissant par exemple du Tchad, et celui qui était le chef d'orchestre de l'opération n'est autre que Jérôme Grandénon, qui cumule plusieurs casquettes, celle d'emploi fictif, celle de principal conseiller électoral de Jacques Chirac, et maintenant, pour le récompenser, responsable de la législation des marchés publics au ministère des Finances. Donc vraiment quelqu'un au top. Donc, nous avons fait en sorte, dans 50 élections majeures, qu'on est encore pire qu'une dictature, légitimée par des élections frauduleuses, ce qu'on appelle une démocrature. Et cela s'est passé à la fois au Cameroun, au Gabon, dans les dernières élections au Congo-Brazzaville, à Djibouti, en Mauritanie, au Togo, bien entendu, etc., etc. Il n'y a eu que 4 exceptions qui sont qui donnent un peu d'espoir, parce qu'ils montrent que les peuples ne cessent pas faire. Il y a eu le renversement de Moussa Traoré au Mali par la population. Il y a eu, en 1997, après 3 fraudes électorales importantes, des officiers qui ont renversé le dictateur mis en place par Focar, le général Barré Maïnassara. La France a crié à l'interruption du processus démocratique, puisqu'on avait renversé une dictature. Et à ce moment-là, elle a coupé sa coopération. Les officiers ont dû organiser tout seuls les élections, qui ont été les plus incontestées d'Afrique depuis 30 ans, pratiquement pas un bulletin contesté. Et d'ailleurs, ce n'est pas le candidat des militaires qui a été élu. En 2000, les Sénégalais avaient affaire à un régime archi-corrompu et familier de la fraude électorale, et ils ont fait une invention politique intéressante, nouvelle en Afrique, en jumelant les téléphones portables et les radios locales, en annonçant directement les résultats sortis des urnes pour empêcher la fraude dans la centralisation des résultats. Du coup, un certain nombre de pays ont retardé sensiblement l'apparition des radios locales. Et puis, il y a eu Madagascar, qui est un exemple tout à fait exceptionnel dans l'histoire, où un peuple mobilisé de manière non violente pendant 6 mois dans les rues, y compris les jeunes femmes, y compris des personnes âgées sous la pluie, sans armes, finalement a réussi à retourner totalement la situation contre celui qui avait fraudé le premier tour, le général Ratsirak. Chaque fois qu'on envoyait l'armée, il y avait toujours une femme ou une fille de général pour appeler le mari ou le père et dire « nous sommes dans la foule ». Et peu à peu, les généraux sont passés de l'autre camp. Et c'est un exemple tellement inquiétant pour le syndicat des dictateurs africains qu'on a mis plus d'un an avant d'accepter le nouveau gouvernement au sein de l'Union africaine. Donc la France-Afrique continue, on a restauré le régime de M. Sassou Nguesso, les dictatures de M. Eyadema, une dictature ubuesque, continue. Je pourrais vous parler longuement de toutes ces dictatures, mais je n'ai pas le temps. Tout cela continue, à 3 ou 4 exceptions près, qui sont quand même bienvenues et qui montrent que tout cela n'est pas fatal. On est encore exactement dans ce régime néocolonial. Si j'ai un peu de temps, mais je ne l'aurai pas, il faudrait que je vous parle du passage à la mafia-afrique, c'est-à-dire comment, dans les eaux profondes de l'Angola, s'est opéré un rapprochement entre les cagnottes, les énormes cagnottes de la France-Afrique et de ses homologues américains, britanniques, sud-africains, russes, etc. C'est-à-dire que nous sommes en train d'assister à une nouvelle phase de mondialisation où un certain nombre d'intermédiaires, par exemple le tandem Falcon-Guédamac, est protégé à la fois par l'ancien KGB, par le Mossad, par la DST française et par la CIA, c'est-à-dire que vous avez un tandem qui couvre tout un tas d'interfaces. Je reviendrai tout à l'heure sur les paradis fiscaux ou pendant les questions.